Donc David ne fait pas confiance à son propre jugement.
Nor does he trust his friend's advice.
Il ne fait pas confiance non plus au conseil de ses amis.
But he leaves it in the hand of the Lord.
Mais il laisse tout cela entre les mains de l'Éternel.
Verset
15, s'il vous plaît. Contre qui le roi d'Israël s'est-il mis en marche? Qui poursuis-tu? Un chien mort, une puce.
The Lord be the judge.
Que le Seigneur soit le juge.
It's hard to do.
C'est difficile pour que l'Éternel, on laisse le jugement à l'Éternel.
Remember when the Lord Jesus was reviled?
Vous vous rappelez quand le Seigneur Jésus était injurié?
Well, that's a different verse than yours.
Yeah, verset 16. On va lire le verset 16. L'Éternel jugera et prononcera entre moi et toi. Il regardera, il défendra ma cause, il me rendra justice en me délivrant de ta main.
The Lord be the judge.
Donc, c'est le Seigneur qui jugera.
Remember when the Lord Jesus was reviled?
Vous vous rappelez lorsque le Seigneur Jésus était injurié?
It said he reviled not again.
Il n'a pas rendu injure.
But he committed himself.
Mais il s'est laissé
to God who judged righteously.
Et s'en est remis à Dieu qui juge justement.
He left it in the hands of God.
Il l'a laissé entre les mains de Dieu.
David did what his Lord did.
David a fait ce que son Seigneur a fait.
That's a man after God's own heart.
C'est ça, un homme selon le cœur de Dieu.
And just quickly to chapter 26 of 1 Samuel.
Et maintenant, rapidement, chapitre 26 dans 1 Samuel.
And the situation is similar.
L'événement est semblable.
David finds Saul asleep.
David trouve Saül endormi.
And he could have killed him.
Il aurait pu le tuer.
In fact, he's told to do that.
Même on lui a dit de le faire.
Verse 8, please.
Verset 8, s'il vous plaît.
Abishai dit à David, « Dieu livre aujourd'hui ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi, je te prie, le frapper de ma lance et le clouer à terre d'un seul coup pour que je n'aie pas à y revenir. »
Abishai a dit
that God has delivered him.
Que c'est Dieu qui l'a délivré.
So once again, God has given the credit.
Qu'il a livré entre ses mains. Donc, il donne crédit à Dieu.
And the implication is,
et il implique
that you'll be in God's will if you remove him.
Que si nous voulons l'enlever, David serait dans la volonté de Dieu.
But David knew his Bible better than that.
Mais David connaissait sa Bible plus que ça.
Verse 9.
Au verset 9.
Mais David dit à Abishai, ne le détruis pas, car qui pourrait impunément porter la main sur loin de l'Éternel?
Qui pourrait impunément porter la main sur loin de l'Éternel?
God has ordained authority.
Dieu a établi l'autorité.
And even though you might not respect the person,
et même si vous ne respectez pas nécessairement la personne,
you want to respect the position.
Il faut respecter la position. Regardez au verset 11.
Loin de moi, par l'Éternel, de porter la main sur loin de l'Éternel. Prends seulement la lance qui est à son chevet, avec la cruche d'eau, et allons-nous-en.
Il ne portera
jamais la main sur loin de l'Éternel.
May you and I, brothers and sisters,
vous et moi, frères et sœurs,
even though God's authority might be an obstacle to us,
même si des fois l'autorité de Dieu nous semble un obstacle,
never stretch your hand against him.
Ne portez jamais la main sur lui.
We're not to rebuke an elder.
On ne doit pas reprendre un ancien.
We can entreat an elder as a father.
Nous pouvons l'exhorter comme un père.
You can appeal to leadership.
On peut peut-être parler à ceux qui sont au leadership.
It's not wrong to do that.
Ce n'est pas mal de leur parler.
Don't stretch your hand against
me. Ne mettez pas votre main sur lui.
I want to close with these verses.
Je veux terminer avec ces versets.
1 Peter chapter 5.
1 Pierre chapitre 5.
And verse 5.
Et au verset 5, 1 Pierre 5, le verset 5.
De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles.
Submit yourselves unto your elders.
Se soumettre aux anciens.
Unto the elders. Unto the elders.
À un ancien.
Submission means to stay under.
La soumission veut dire de rester au-dessous.
That's hard to do.
C'est difficile à faire.
But remember, it's not the issue always that's important.
Mais rappelez-vous, ce n'est pas l'issue ou la question qui est la plus importante. Ce qui est important, c'est notre réaction.
Or if he's going to ask you to rule people,
parce que s'il vous demande à conduire des gens,
and which people will have to submit to you,
et où les gens vont être obligés de se soumettre à vous,
he's quite interested in how you submit to your authority.
Il s'intéresse aussi à la façon que vous vous soumettiez à votre autorité.
And he says that God will resist the proud.
Et il dit que Dieu résiste aux orgueilleux.
You see, pride is lifting yourself up.
Donc vous voyez, l'orgueil, c'est de s'élever soi-même.
Submission is staying under.
La soumission, c'est de rester au-dessous.
Like a submarine,
comme un sous-marin.
It goes under.
Il va en saut.
The word sub means down.
Ça veut dire aller en saut.
To submit means to stay under God's authority.
Se soumettre, ça veut dire de rester au-dessous de l'autorité de Dieu.
Pride means to elevate yourself up.
L'orgueil, c'est de s'élever.
And contend with authority.
Puis de confronter l'autorité. Affronter. Et de se traiter, se regarder comme égal à l'autorité. Et Dieu dit qu'il va te résister si tu fais ça.
But if you're humble,
et si vous êtes humble,
you stay down,
puis vous restez en bas,
God will give you grace.
Dieu va vous donner la grâce.
Look at verse 6.
Regardez le verset 6.
Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable.
Humble yourself.
Humiliez-vous donc.
That means stay under.
Ça veut dire de rester au-dessous.
And God may exalt you in due time.
Et Dieu va vous élever au temps convenable.
And we're back to the timetable of God.
Donc, on revient dans l'horaire de Dieu.
When I was young, I wanted changes now.
Quand j'étais jeune, je voulais tout changer tout de suite.
But God didn't want those changes now.
Mais Dieu ne voulait pas ces changements-là
tout de suite. Figure it out.
Puis je ne comprenais pas.
Even now, I'm still figuring it out.
Mais je réfléchis encore pour essayer de comprendre.
That God was not as much interested in changes.
Que Dieu ne s'intéressait pas tellement aux changements.
As he was in killing the king Saul.
Il s'intéressait plutôt à faire mourir le roi Saül en moi.
That's what God is after.
C'est ça que Dieu cherche.
And in his time, he can exalt you.
Puis à son moment, il peut nous élever au temps convenable.
It hurts when I don't even think they're right.
Mais ça fait mal quand je sais qu'ils n'ont pas raison.
And I have all these cares because of the way they treat me.
Puis j'ai toutes ces soucis à cause de la manière qu'ils me traitent.
Well, that's the context of verse 7.
C'est ça le contexte du verset 7.
Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous.
You cast your care on him.
On décharge sur lui de tous nos soucis.
He's gone through it already.
Lui a tout passé par là.
He cares for you.
Il s'occupe de nous.
He'll give you the strength to obey your authority.
Il nous donnera l'autorité pour se soumettre à l'autorité. Il nous donnera la force pour se soumettre à l'autorité.
And if you do not do that,
puis si on ne le fait pas,
may I remind you of the context of verse 8?
Est-ce que je peux vous rappeler du contexte du verset 8?
Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera.
That's where the roaring lion Satan comes in.
C'est là où a lieu le lion rugissant.
I've seen families.
C'est là qu'il arrive. J'ai vu déjà des familles.
I've seen friendships.
J'ai vu des amitiés.
I've seen marriages.
J'ai vu des mariages.
I've seen assemblies.
J'ai vu des assemblées.
Destroyed by not submitting to authority.
Détruits à cause qu'ils ne veulent pas se soumettre à l'autorité.
Satan is right.
Donc, Satan réussit.
Solution is to humble yourself.
La solution, c'est de s'humilier.
Stay under.
De rester au-dessous.
Wait on God's timetable.
D'attendre l'horaire de Dieu.
Maybe your authority is wrong.
Peut-être que votre autorité, c'est lui qui a l'autorité à tort.
And in due time, God can exalt you.
Puis, en temps convenable, Dieu peut vous élever.
But he doesn't want to exalt a King Saul II.
Mais il ne veut pas élever un roi Saül II.
He wants to exalt a David.
Il veut exalter un David.
A man after his own.
Un homme selon le cœur de Dieu.
May God encourage you and I in God's heart this morning.
Que Dieu nous encourage, vous et moi, d'avoir un cœur comme lui ce matin.
I've left you 2 minutes for questions and comments.
Je vous ai laissé 2 minutes pour des questions et des commentaires.
Bonjour, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, j'aimerais vous faire tourner dans le deuxième chapitre à Samuel, au verset 1. Nous apprenons la manière de Dieu dans le leadership ce matin. On a regardé au troisième point dans cette série comment David est venu au pouvoir. On a appris que c'était à travers la soumission et à travers la souffrance et qu'il avait besoin du roi Saül. Il avait besoin du négatif pour l'éprouver. Dieu ne cherchait pas la puissance, le pouvoir. Il l'avait déjà dans le roi Saül. Grand homme qu'il était. Mais il cherchait un cœur brisé. Dans les mots de Actes 13 au verset 22,
a man after my own heart.
Un homme d'après mon propre cœur.
We do want to make one statement left over from yesterday.
On veut faire un énoncé qui a été laissé de hier.
The New Testament does give you the right to appeal to elders.
Le Nouveau Testament nous donne le droit de consulter les anciens, de les questionner.
Not rebuke them, but appeal.
Pas de les reprendre, mais de les questionner.
And the New Testament does give you the right to go to a brother who has offended you.
Et le Nouveau Testament nous donne le droit d'aller auprès d'un frère qui nous a offensés. Et ce programme-là nous est démontré dans Matthieu 15. La première étape est d'aller au frère seul. Et vous allez probablement gagner ce frère. La deuxième étape, s'il n'écoute pas, est d'amener un ou deux témoins. La troisième étape est de le dire à l'Église même. Et je parlais avec quelqu'un hier. La plupart des problèmes pourraient être résolus si on utilisait la première étape.
Go to the brother alone.
C'est-à-dire aller au frère seul.
But we do the third step first.
Mais on commence avec la troisième étape.
We tell it to the church.
On le dit à l'Église.
And all kind of problems happen.
Et alors, toutes sortes de problèmes peuvent émerger.
So there will be times you are offended.
Il y aura des temps où vous serez offensés.
You do have the right to attempt to solve.
Et vous avez le droit d'essayer de résoudre ces problèmes-là.
Go to the brother alone.
Mais aller seul vers le frère pour commencer. Combien de problèmes cela pourrait résoudre? Ayant dit cela, on veut continuer sur notre thème, c'est-à-dire comment David est venu au pouvoir et comment il a utilisé ce pouvoir-là une fois qu'il l'a obtenu. Et c'est ça le quatrième point de notre série. Comment utiliser le pouvoir?
Many men come into power.
Plusieurs hommes viennent au pouvoir.
Then they have problems using it.
Et ils ont des problèmes à l'utiliser, ce pouvoir-là.
And so we're in 2 Samuel 1.
Et alors nous sommes dans 2 Samuel au verset 1.
I'd like to read verses 7 through 10.
Et on pourrait lire les versets 7 à 10.
The context of verses
Le contexte de 2 Samuel, des versets 7 à 10, c'est que le roi Saül est maintenant mort. Et maintenant, comment est-ce que David va venir au pouvoir? On vient au point où un Malachite, je crois, a tué le roi David. Et voyons ce qui est arrivé.
Étant retourné, il m'aperçut et m'appela. Je dis, me voici. Et il me dit, qui es-tu? Je lui répondis, je suis Amalécite. Et il dit, approche donc et donne-moi la mort, car je suis pris de vertige, quoique encore plein de vie. Je m'approchai de lui et je lui donnai la mort, sachant bien qu'il ne survivrait pas à sa défaite. J'ai enlevé le diadème qui était sur sa tête et le bracelet qu'il avait au bras, et je les apporte ici à mon Seigneur.
La question est de quelle main, la main de qui est-ce que David va accepter la couronne? Si son cœur était seulement vers le pouvoir, attiré vers le pouvoir, il l'aurait pris de n'importe quelle manière, peu importe la méthode. Mais son cœur était à la recherche de Dieu. Et c'est cela qui fait la différence. Il n'était pas après le pouvoir. Et est-ce qu'il va prendre la couronne de la main de l'ennemi? Est-ce qu'il va dérober cette autorité-là de l'ennemi? L'Amalécite lui amène la couronne du roi Saül. David l'a refusé de l'ennemi de Dieu. Il y a quelqu'un d'autre qui a refusé la couronne de l'ennemi de Dieu aussi. Et il ne la prenait pas de l'ennemi. Et c'était qui ça? C'était le Seigneur Jésus. Et voilà pourquoi David était appelé un homme selon le cœur de Dieu. Vous voyez la réaction de David au verset 11.
David saisit ses vêtements et les déchira. Tous les hommes qui étaient auprès de lui firent de même.
Et ensuite les versets 14 à 17.
David lui dit, comment n'as-tu pas craint de porter la main sur loin de l'Éternel et de lui donner la mort? Et David appela l'un de ses gens et dit, approche et tue-le. Cet homme frappa l'Amalécite qui mourut. Et David lui dit, que ton sang retombe sur ta tête, car ta bouche a déposé contre toi, puisque tu as dit, j'ai donné la mort à loin de l'Éternel. Voici le cantique funèbre que David composa sur Saül et sur Jonathan, son fils, et qu'il ordonna d'enseigner aux enfants de Juda. C'est le cantique de l'arc. Il est écrit dans le livre du Juste.
David n'avait pas le temps pour la rébellion contre loin de Dieu. Et il ne prendrait pas la couronne en ces conditions-là. Et parce que alors il aurait été le roi Saül numéro 2. Au lieu que l'Amalécite soit récompensé, il est exécuté. Le verset 17 nous dit que David c'est où là? Mais j'essaie de trouver. C'est lamenté sur Saül en tout cas. Il ne s'est pas réjoui du fait que l'autorité était partie. Certains gens ont établi leur pouvoir en critiquant l'autorité. Et en critiquant l'autorité, ils amassent des gens dans leur camp. C'est pas ce que David a fait. Il n'est pas allé chercher des personnes qui étaient contre Saül. Vous voyez, David savait que quand Dieu oint quelqu'un, et quand Dieu nous appelle, notre Dieu souverain a aussi l'habilité de nous amener à cette position. Et on n'a pas besoin d'utiliser des méthodes douteuses pour atteindre ces buts-là. Alors David a loué Saül au lieu de le critiquer. Il l'a honoré. Et ceux qui ne croient pas, ceux qui ne sont pas sauvés ne devraient pas être conscients de toutes ces méthodes douteuses-là. Au verset 20, on voit ça.
Ne l'annoncez point dans Gath, n'en publiez point la nouvelle dans les rues d'Ascalon, de peur que les filles des Philistins ne se réjouissent, de peur que les filles des incirconcis ne triomphent.
L'autorité l'autorité qui était contre Dieu a été enlevée. Mais David ne se réjouit pas de ce fait-là. Ça nous dit quelque chose à propos du cœur de David. Et alors, comment est-ce que David va venir au pouvoir? S'il n'utilise pas des méthodes douteuses, comment le fera-t-il? David semble penser que c'est le problème de Dieu. Si Dieu l'appelait, il allait s'en occuper. Il y a un verset dans le Nouveau Testament qui nous dit cela. 1 Thessaloniciens 5 au verset 24 nous dit: il est fidèle celui, celui qui vous appelle sera fidèle pour le faire. C'est une leçon qu'il faut que nous apprenions. Dieu n'appelle pas seulement. Dieu agit. Des fois, on pense que Dieu appelle, mais que c'est à nous de le faire arriver. Votre Dieu appelle et fait se produire les choses. Alors nous allons à 1 Samuel au chapitre 2. Au verset 1.
The first Samuel?
Okay. 2 Samuel, chapitre 2, verset 1. 2 Samuel, chapitre 2, verset 1.
Après cela, David consulta l'Éternel en disant: monterai-je dans une des villes de Juda? L'Éternel lui répondit: monte. David dit: où monterai-je? Et l'Éternel répondit: à Hébron.
David s'informe sur Dieu. Alors, puisque c'est le royaume de Dieu, Dieu est le monarque, c'est le vrai roi. Et David va laisser la décision à Dieu. Et c'est tout à fait le contraire de ce que Saül a fait. Alors, il questionna Dieu. Est-ce que je devrais aller auprès de Juda? Et sa question, c'était pas seulement s'il devait y aller, mais c'était quoi l'autre question?
Où?
Non seulement est-ce que je devrais y aller, mais où devrais-je aller? Il laissait à Dieu le soin de remplir tous les détails, de fournir tous les détails. Et Dieu a dit, va.
And God said to Hebron.
Et Dieu a dit à Hébron.
And it will be no surprise when he gets to Hebron.
Et ça sera aucune surprise que quand il se rendra à Hébron,
they will anoint David king.
Ils vont oindre David en tant que roi. Si Dieu n'avait pas consulté, si David n'avait pas consulté Dieu, pardon, et serait allé par exemple à Nazareth au nord d'Israël, est-ce qu'il l'aurait oint roi?
Non.
Ça serait 7 ans et demi plus tard. Avant que Israël en entier l'accepte comme roi. Et voilà pourquoi c'est payant de chercher le conseil de Dieu. Israël n'était pas prêt pour David, mais Judas l'était. Et alors Dieu l'a envoyé au bon endroit, n'est-ce pas? Et maintenant, on va lire les versets 3 et 4, s'il vous plaît.
David fit aussi monter les gens qui étaient auprès de lui, chacun avec sa maison, et ils habitèrent dans les villes d'Hébron. Les hommes de Juda vinrent, et là, ils oignirent David, pourquoi, sur la maison de Juda. On informa David que c'étaient les gens de Jabès en Galaad qui avaient enterré Saül.
Et alors les hommes de Juda ont oint David en tant que roi. Alors David est venu au pouvoir par la puissance de Dieu. Et David restera au pouvoir pendant 40 ans. Et maintenant je vous prie d'aller au verset 8. Le reste d'Israël n'était pas prêt à accepter David. Ils pensaient que le fils de Saül devrait devenir roi. Même si Dieu rejetait la dynastie, ceux qui étaient loyaux à Saül ne le rejetaient pas. Alors, les versets 8 et 9.
Cependant, Abner, fils de Ner, chef de l'armée de Saül, prit Ish-Bosheth, fils de Saül, et le fit passer à Mahanaïm. Il établit roi sur Galaad, sur les Assyrites, sur Jisréel, sur Ephraim, sur Benjamin, sur tout Israël.
Alors Ish-Bosheth, le fils de Saül, est institué roi. Comment est-il devenu roi? Par les hommes. C'est-à-dire par Abner, le capitaine.
Le chef.
Et les hommes peuvent vous amener au pouvoir. Les hommes peuvent vous donner une certaine autorité. Et les hommes peuvent vous donner la position de leader. Mais si l'homme peut faire ceci, l'homme peut aussi le défaire ou détruire. Et alors Abner amène Ish-Bosheth au pouvoir. Mais Abner va aussi l'enlever du pouvoir. L'homme peut vous mettre au pouvoir et vous enlever du pouvoir. Mais quand Dieu vous amène au pouvoir, vous êtes sous sa protection. Alors, allons voir comment Abner a enlevé le pouvoir à Ish-Bosheth. Au chapitre 3 de 2 Samuel. Les versets 8 à 12. S'il vous plaît.
Abner fut très irrité des paroles d'Ish-Bosheth et il répondit, « Suis-je une tête de chien qui tienne pour Juda? Je fais aujourd'hui preuve de bienveillance envers la maison de Saül, ton père, envers ses frères et ses amis. Je ne t'ai pas livré entre les mains de David, et c'est aujourd'hui que tu me reproches une faute avec cette femme. Que Dieu traite Abner dans toute sa rigueur. Si je n'agis pas avec David selon ce que l'Éternel a juré à David, en disant qu'il ferait passer la royauté de la maison de Saül dans la sienne, et qu'il établirait le trône de David sur Israël et sur Juda, depuis Dan jusqu'à Beersheba.
Le chef de l'armée, Abner, c'était un grand homme. Il a mis Ishbosheth au pouvoir. Et ce même homme l'a enlevé du pouvoir. Quand l'homme vous met au pouvoir, l'homme peut aussi retrancher ce pouvoir-là. Frères et sœurs, assurez-vous du fait que c'est Dieu qui vous appelle à ce qu'il vous appelle. Et si Dieu vous appelle, de sa propre manière et en son propre temps, vous serez vraiment dans votre position, là où Dieu veut que vous soyez. Soyez encouragés dans ces principes. Et maintenant au chapitre 5, s'il vous plaît. Et maintenant, nous voyons que Israël en entier va reconnaître le roi David. Parce que quand Dieu est dans quelque chose, ça se produit. Et voilà, c'est le type de Dieu que nous servons. Nous savons que Dieu est dans beaucoup de choses. Mais ces choses ne se produisent pas autant où nous voulons qu'elles se produisent. Votre Dieu est tout puissant. Rien n'est trop difficile pour lui. Job a dit, je sais que vous pouvez tout faire. Job 42, verset 2. Si Dieu peut tout faire, ben, il peut vous amener à l'autorité si vous êtes appelé à l'être. Et c'est exactement ce qu'il fait avec David. Les versets 1 à 5 du chapitre 5, s'il vous plaît.
Toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et dirent, voici, nous sommes tes os et ta chair. Autrefois déjà, lorsque Saül était notre roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel t'a dit, tu paîtras mon peuple d'Israël et tu seras le chef d'Israël. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron, et le roi David fit alliance avec eux à Hébron devant l'Éternel. Ils oignirent David pour roi sur Israël. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 40 ans. À Hébron, il régna sur Juda 7 ans et 6 mois, et à Jérusalem, il régna 33 ans sur tout Israël et Juda.
Dieu avait promis à David qu'il serait roi sur quoi?
Israël.
Sur le pays en entier, sur tout Israël. Il avait été oint pour être le leader de tout Israël. Mais pour 7 ans et demi, il était seulement le chef de l'Israël du Sud. Parce que le nord d'Israël était encore, suivant encore la maison de Saül. Mais le verset 3 nous dit que 7 ans et demi plus tard, tous les anciens d'Israël ont oint David. Alors Dieu, dans son temps, va remplir ses promesses. La partie difficile, c'est d'attendre à Dieu. Et c'est David qui a écrit au psaume 27 au verset 14.
Wait on the Lord.
Attendez auprès du Seigneur. Attendez. On va lire le psaume 27 au chapitre 14.
Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel.
Wait on the Lord.
Espère en l'Éternel.
I believe, brothers and sisters, that's the secret of being in God's will.
Je crois, et frères et sœurs, que c'est la clé pour demeurer dans la volonté de Dieu.
And so we have seen a little bit of how David came into power.
Alors, on a vu un peu de comment David est venu au pouvoir.
Before we consider how he used his power,
avant de considérer comment il a utilisé ce pouvoir,
are there any comments or questions on this subject?
Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions sur ce sujet?
Ouais, en fait, un commentaire, c'est que ça nous montre que même, je veux pas, la parole de Dieu est vivante et actuelle, que même dans notre cheminement qu'on fait aujourd'hui, peu importe, dans le travail, l'école, peu importe, il faut savoir regarder à Dieu pour que ce soit lui qui, un peu comme David, qui nous oint, qui décide là où ce qu'il veut qu'on soit. Alors, faut toujours s'en remettre à lui. A bit like it was, like David, it tells us to pretty well look to God to make sure we are in His will or in the direction He wants us to be, whether it be one of authority or one of just a common worker, knowing once again that you're in tune with God.
Interesting that Abner chooses the Saul concubine. What do you say in English? Jesse, concubine. He wants power, and that's why he was so mad about Ish-bosheth, because he said, "We can see the man." What do you say? Tricoter en français là. I see. Try to get some little things, powers. Ouais. C'est intéressant de voir que Abner a choisi la concubine de Saül. Il aurait pu prendre une autre femme, mais c'était la concubine de Saül. Alors, dans sa tête, c'est facile. Alors, si je prends quelque chose de Saül, donc je peux avoir une partie du pouvoir de Saül. Et c'est pour ça que quand Ish-bosheth l'a réprimandé, parce que en plus c'était quelqu'un qui avait connu la femme de Saül. Et c'est pour ça qu'il était si enragé, parce que là, il avait compris tout son plan.
Et c'est intéressant aussi que ceux qui aspiraient au pouvoir, comme Abner et Ish-bosheth, en dedans d'un an, ils étaient morts. Et celui qui n'aspirait pas au pouvoir a été au pouvoir pour 40 ans. David.
Anybody else?
Quelqu'un d'autre?
Madame Cox me faisait remarquer que le Seigneur a régné 33 ans sur tout Israël. Et le verset 4 dit, David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi. Et ça nous fait penser au Seigneur Jésus qui a servi pendant 30 ans, une trentaine d'années. Et puis finalement... comme serviteur, il y a un parallèle intéressant. Madame Cox was pointing to me that David reigned for 33 years, but he was waiting for 30 years before he came to kingship. That looks to what the Lord Jesus, that's what he did. He served. How many? 30 years? Oh, just about. And that's the type, eh?
The Lord Jesus was about 30 years old.
Yeah.
In the English, there are three words to describe what David did first.
En anglais, il y a trois mots qui décrivent ce que Dieu a fait en premier.
In the
en anglais, ils commencent tous avec la lettre S.
I don't know what they'll start with in French.
Je ne sais pas avec quoi ils commencent en français.
Number one, he served.
La première, c'est qu'il a servi.
Number two, he submitted.
La deuxième, il s'est soumis.
Number three, he suffered.
Et la troisième, il a souffert. Avec sa marche en français aussi. Il dit, le français, c'est pas pire quand même. C'est la démarche à suivre pour devenir un vrai leader. Servir, se soumettre et souffrir. Quelqu'un d'autre? Nous allons maintenant dans 2 Samuel au chapitre 6. Et maintenant le roi David est dans une position d'autorité. Et comment utilise-t-il cette autorité? Une des leçons que nous allons apprendre au chapitre 6, c'est que quand on est dans une position d'autorité, comment réagir quand Dieu nous corrige et nous montre qu'on est dans l'erreur? Des fois, on pense, « Hey, j'ai le pouvoir, alors je ne peux pas être dans l'erreur. » Mais l'autorité peut être dans l'erreur. Mais la clé se tient dans la réaction qu'on a à cette erreur-là. Alors, comment est-ce que David va réagir quand Dieu le corrige? Et encore, nous allons voir un homme selon le cœur de Dieu. Le contexte au chapitre 6, c'est l'arche de Dieu. Et maintenant, ils veulent amener l'arche à la cité de David. L'arche est le symbole de la présence de Dieu. C'était le point de rencontre pour toute la nation. Si la nation est pour être unie autour de Dieu, ça prend l'arche de Dieu au milieu de la nation. Alors, David veut amener l'arche à la cité de David. Ce que nous allons faire maintenant, c'est nous allons aller à 1 Chronique au chapitre 13.
Because 1 Chronicles 13 gives you more detail than 2 Samuel 6.
Is it 13 or 15?
13.
13. 1 Chronique au chapitre 13.
1 Chronicles 13 will give you more detail than 2 Samuel 6.
Cette portion de la Bible nous donne plus de détails que 2 Samuel au chapitre 6.
And that's why we're looking at chapter 13.
Et c'est pour ça qu'on considère le chapitre 13.
Verses 1 through 3.
Les versets 1 à 3.
David tint conseil avec les chefs de milliers et de centaines, avec tous les princes. Et David dit à toute l'assemblée d'Israël, « Si vous le trouvez bon, et si cela vient de l'Éternel, notre Dieu, envoyons des messagers de tous côtés vers nos frères qui restent dans toutes les contrées d'Israël, et aussi vers les sacrificateurs et les Lévites dans les villes où sont leurs banlieues, afin qu'ils se réunissent à nous, et ramenons auprès de nous l'arche de notre Dieu, car nous ne nous en sommes pas occupés du temps de Saül. »
Alors, ce que David voulait faire, c'était bien. Alors, ce que le roi David voulait faire était bien.
wrong when you want to do something that's right?
Est-ce qu'on peut être dans l'erreur quand on veut faire quelque chose qui est bien? Peut-être, probablement.
And now look at verse 4.
Considérons le verset 4.
Toute l'assemblée décida de faire ainsi, car la chose parut convenable à tout le peuple.
All the congregation said it was right.
Toute la congrégation disait que c'était bien.
He had unity.
Il y avait l'unité.
Can you be wrong when you have unity?
Est-ce qu'on peut être dans l'erreur même quand il y a unité?
We'll see.
On va voir ça.
And then verse 8.
Au verset 8,
David et tout Israël dansaient devant Dieu de toute leur force, en chantant et en jouant des harpes, des luttes, des tambourins, des cymbales et des trompettes.
Ils étaient même enthousiastes. Ils étaient tous excités. L'enthousiasme, c'est bon. Est-ce qu'on peut être dans l'erreur quand on est enthousiaste?
He had the right motive.
Il avait les bons motifs
to bring the ark home.
Pour ramener l'arche chez lui.
He had the agreement of all the leaders and people.
Il avait l'accord de tous les leaders et des gens aussi,
unity.
Du peuple, l'unité.
And he had great singing and instruments.
Et il y avait beaucoup de chants et de la musique, des instruments. L'enthousiasme.
And yet he's going to be wrong.
Et quand même, il sera dans l'erreur.
Look at verse 7, please.
Au verset 7, s'il vous plaît.
Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu, qu'ils emportèrent de la maison d'Abinadab. Uza et Ahio conduisaient le char.
So the ark of God is put on an expensive new cart.
L'arche de Dieu est mise sur un nouveau char avec deux conducteurs.
It's not what he did that was wrong.
C'est pas ce qu'il a fait qui était mal.
It's not the unity that was wrong.
C'est pas l'unité qui était mal.
And it's not the enthusiasm that was wrong.
Et c'est pas l'enthousiasme qui était mal.
It was how he did it.
C'est comment il l'a fait.
It was the method he used.
C'était la méthode.
Well, look what happened next.
Voyons ce qui se produit ensuite.
Verses 9 and 10.
Au verset 9 et 10.
Lorsqu'ils furent arrivés à l'aire de Kidon, Uza étendit la main pour saisir l'arche, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et l'Éternel le frappa, parce qu'il avait étendu la main sur l'arche. Uza mourut là, devant Dieu.
Uza met sa main sur l'arche pour la protéger.
C'est
une chose assez sainte à faire.
God was angry.
Dieu était en colère.
And Uza died.
Et Uza est mort.
And David says this in verse 11.
Et David dit ceci au verset 11.
David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Pérès Uza.
David était irrité. Il était fâché. Le but n'était pas atteint. Parce que Dieu avait arrêté les démarches. Et David pose une question. On la trouve au verset 12.
David eut peur de Dieu en ce jour-là et il dit, « Comment ferais-je entrer chez moi l'arche de Dieu ?»
Est-ce que vous pourriez traduire cette question en anglais pour moi, s'il vous plaît?
How do I would have this what ark?
Yeah, ark. How will I get the ark?
Into my.
Okay. Notice the question is how.
Remarquez que la question c'est comment.
That's a question he had not asked before.
C'est une question qu'il n'avait pas posée avant. Et ça, il doit se demander vraiment comment est-ce que je peux faire ça? Comment est-ce que ça peut être fait? Et comment est-ce que ça devrait être fait? Ça arrive souvent que dans notre service pour Dieu, on oublie de lui demander comment est-ce qu'il veut que ça se produise, que ça soit fait. On pense que si c'est la bonne chose, la bonne chose à faire, et si ça unit les gens, et si ça l'aide les gens, ben ça doit être correct. Mais parce que Dieu veut être glorifié, ça compte pour Dieu comment on le sert. Et c'est ce que le Nouveau Testament nous dit. Alors, si vous pouvez garder votre doigt ici, on va revenir. Allez dans 1 Corinthiens au chapitre 3 et au verset 10, s'il vous plaît.
Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus.
Le fondement de l'Église chrétienne, c'est Jésus-Christ. Et nous sommes appelés à édifier, à construire sur cette fondation-là. Peu importe ce que sont vos dons ou votre appel. Mais la fin du verset 10 nous dit, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Oui. Faites attention à la manière dont vous bâtissez. Parce que au trône de Christ, Dieu n'examinera pas seulement ce que nous avons fait, mais de la manière dont nous l'avons fait. Ça compte pour Dieu si on suit sa parole ou non. Ça compte ou non si les méthodes glorifient son pouvoir, sa puissance.
I can tell my children to wash the dishes.
Moi, je peux dire à mes enfants de laver la vaisselle.
This is a bad example.
Ceci est un mauvais exemple en passant.
And so they wash the dishes.
Alors, ils lavent la vaisselle.
Does it matter how?
Est-ce que ça importe comment?
What if they said I washed them in the toilet?
Qu'est-ce qui arriverait s'ils disaient qu'ils la lavaient dans le bol de toilette?
It matters
how. Ça compte comment?
The methods glorify the person.
Les méthodes glorifient la personne.
The methods are important.
Les méthodes sont importantes.
So take heed how you serve God.
Alors faites attention comment vous servez Dieu.
Back to 1 Chronicles 13.
On retourne à 1 Chronique au chapitre 13.
David is in a sense rebuked by God.
David est, dans un sens, repris par Dieu. Dieu met une fin à sa vision des choses. Et alors David dit, comment vais-je le faire? La grosse question, la question qui prime maintenant, c'est comment est-ce que David va réagir? Frères et sœurs, des bons hommes font des erreurs. Et nous devons tolérer cela. Mais la question est comment est-ce que je vais réagir à la correction de Dieu? C'est la réaction qui démontre ce qu'il y a dans votre cœur. Et maintenant au chapitre 15, s'il vous plaît, de 1 Chronique. Que David a fait entre les deux, entre-temps, il est allé voir dans la loi la parole de Dieu. Quelque chose qu'il avait négligé de faire, n'est-ce pas? Et il a découvert quelque chose dans la parole de Dieu. Selon le livre de Deutéronome, au chapitre 17, qu'est-ce que les rois étaient supposés de faire? Qu'étaient-ils appelés à faire?
Lire à tous les jours dans les Écritures.
Read every day in the Scriptures. Lire à tous les jours dans les Écritures.
Read the Scriptures every day.
Lire les Écritures à tous les jours.
He had failed to do that.
Et il avait manqué sur ce point-là, n'est-ce pas?
But once he had been changed of God.
Excusez-moi.
Once he had been corrected of God.
Okay. Une fois qu'il a été corrigé,
he now goes back to the Scriptures.
Il retourne aux Écritures.
This is what he discovers in verse 2.
Voici ce qu'il découvre au verset 2.
Alors David dit, l'arche de Dieu ne doit pas être portée que par les Lévites, car l'Éternel les a choisis pour porter l'arche de Dieu et pour en faire le service à toujours.
L'arche ne doit pas être sur un char. L'arche doit être portée par les Lévites. Et c'est n'importe qui peut le faire. Dieu avait choisi la tribu de Lévi pour le faire. Et c'était ça la méthode de Dieu. Quand on est dans une position de leadership, il y a des temps, des occasions où on va faire des erreurs. Mais il ne faut pas avoir peur de retourner dans la parole de Dieu, consulter la parole de Dieu pour trouver la réponse et ensuite se soumettre à la parole de Dieu. Il ne faut pas avoir peur d'admettre qu'on était dans l'erreur. Et quand on change la manière de procéder, il faut s'assurer du fait qu'on a l'autorité de Dieu et de sa parole pour le faire. Ça, c'est un homme selon le cœur de Dieu. Il va prendre la correction, il va l'accepter et il va changer sa manière d'agir pour obéir à la parole de Dieu. Il ne va pas se trouver des excuses pour se justifier, pour qu'il puisse paraître bien devant les gens. Mais il va se prosterner, céder à la parole de Dieu. Alors, David a eu une étude, n'est-ce pas? Et j'aimerais qu'on examine quelques-unes des Écritures qu'il a découvertes. Alors, gardez votre doigt ici et lisons dans Exode au chapitre 5 et au verset 25. Exode au chapitre 25 et au verset 14.
Tu passeras les barres dans les anneaux sur les côtés de l'arche pour qu'elles servent à porter l'arche.
Dieu avait dit que l'arche avait des anneaux dessus. Et ils étaient ordonnés de passer les barres dans ces anneaux. Et ensuite, ces barres allaient reposer sur les épaules des Lévites. Alors, l'arche ne toucherait jamais la chair humaine. Je suis certain qu'ils ne comprenaient pas l'image, le contexte que Dieu essayait de leur montrer. Pourquoi pensez-vous que l'arche ne devait pas toucher les mains d'hommes? Because God is holy.
God is holy. And the ark turned out to be a picture of his son, the Lord.
Et l'arche était une image de son fils, le Seigneur Jésus-Christ.
The ark was where God's presence was.
L'arche était où la présence de Dieu était.
Do you know where his presence was in the New Testament?
Savez-vous où sa présence était dans le Nouveau Testament, la présence de Dieu? Colossiens 2:9 nous dit, c'est en Jésus-Christ que habite quoi? Habite corporellement toute la plénitude de Dieu. La plénitude de Dieu était avec le Seigneur Jésus-Christ. Et quand ça vient à votre salut, qu'est-ce que les mains d'homme ont à faire avec ça? C'est-à-dire vos œuvres, vos efforts. Vous dites rien, c'est pas par les œuvres. Et si les mains humaines touchent l'arche, ça brisait cette image-là. Je crois pas qu'ils comprenaient tout ça, toute cette imagerie. Mais est-ce qu'il faut comprendre Dieu pour lui obéir? Vous voyez, quelques-uns pourront dire, les anneaux et les barres, c'est des petites choses. Passons aux choses plus grandes, plus importantes. Les gens sont dans l'enthousiasme. L'arche devrait être dans la cité de David. Alors ne devenons pas légalistes. Et ne nous inquiétons pas de petits détails comme les barres et les anneaux. Il n'y a personne qui s'inquiète des anneaux et des barres. Mais Dieu, lui, ça compte pour lui, pour Dieu. Et aussi, ça compte si ça devrait compter pour un homme selon le cœur de Dieu. Est-ce que vous entendez de telles affirmations aujourd'hui? Nous devrions nous attarder à l'évangélisation. Avec l'unité, arrêtons de nous diviser. C'est des bonnes choses. Ne nous inquiétons pas de l'ordre dans l'Église. Ça, c'est du légalisme. On va pas se quereller sur le rôle de la femme. Ça nuit à la vision entière. Et des fois, oui, c'est vrai, c'est ce que ça fait. Et alors, c'est qui s'inquiète de ces choses-là? Dieu. Et l'homme qui est selon le cœur de Dieu. Faites attention comment vous bâtissez. C'est une leçon que David avait à apprendre. Mais remercions Dieu qu'il était enseignable. Enseignable. Et il a appris sa leçon. Alors on retourne à 1 Chronique au chapitre 15. David était enseignable. C'est correct, on peut faire des erreurs. Mais c'est pas correct de ne pas accepter l'enseignement. Alors Dieu avait appris la parole de Dieu. Il l'a mis en action. Les versets 12 à 14. 12 à 15, excusez-moi. De 1 Chronique au chapitre 15.
Il leur dit, vous êtes les chefs de famille des Lévites, sanctifiez-vous, vous et vos pères et vos frères, et faites monter à la place que je lui ai préparée l'arche de l'Éternel, du Dieu d'Israël. Parce que vous n'y étiez pas la première fois, l'Éternel notre Dieu nous a frappés, car nous ne l'avons pas cherché selon la loi. Les sacrificateurs et les Lévites se sanctifièrent pour faire monter l'arche de l'Éternel, du Dieu d'Israël. Les fils des Lévites portèrent l'arche de Dieu sur leurs épaules avec des barres, comme Moïse l'avait ordonné d'après la parole de l'Éternel.
Le verset 15 conclut qu'ils l'ont fait selon la parole de Dieu. Et c'est ça qui fait la différence. Remarquez ce que David a dit au verset 13.
que l'Éternel nous a frappés. C'est ça?
Mm-hmm.
C'est ça.
Why did the Lord do it?
Pourquoi est-ce que Dieu l'a fait?
What is the reason David gives in verse 13?
C'est quoi la raison qui est donnée au verset 13? Ils n'ont pas cherché, ils n'avaient pas un cœur pour le Seigneur à ce moment-là. They didn't look, they didn't have a heart according to the Lord in that time.
They didn't have a heart?
Yes, according to God. They didn't look according to the law. They didn't look in the law to see what they should do.
The English says they didn't use the right order.
L'anglais nous dit qu'ils n'ont pas respecté le bon ordre.
Order and method matter to God.
L'ordre et la méthode comptent pour Dieu.
So how do I use my power and authority?
Alors comment est-ce que j'utilise ce pouvoir et cette autorité?
Do I use power to do it my way?
Est-ce que je l'utilise pour la faire de ma manière?
Many do.
Et il y en a plusieurs qui font ça.
Or do I use my power to carry out God's word?
Ou est-ce que j'utilise mon pouvoir pour mettre en branle la parole de Dieu?
And to lead the assembly in carrying out God's word.
Et pour inciter l'assemblée à suivre cette parole, la parole de Dieu.
That's what David did.
Et c'est ce que David a fait.
And then look at verse 25.
Allons voir au verset 25.
David, les anciens d'Israël et les chefs de milliers se mirent en route pour faire monter l'arche de l'Alliance de l'Éternel depuis la maison d'Obed-Édom au milieu des réjouissances.
So now there's unity and excitement.
Et maintenant, il y a l'unité et l'excitation.
That's okay, according to the word.
Et c'est bien si c'est selon la parole de Dieu. Alors, allons voir ce qui se passe au verset 26 et 27.
Ce fut avec l'assistance de Dieu que les Lévites portèrent l'arche de l'Alliance de l'Éternel, et l'on sacrifia 7 taureaux et 7 béliers. David était revêtu d'un manteau de byssus. Il en était de même de tous les Lévites qui portaient l'arche des chantres et de Canania, chef de musique parmi les chantres. Et David avait sur lui un éphod de lin. Tout Israël fit monter l'arche de l'Alliance de l'Éternel avec des cris de joie au son des clairons, des trompettes et des cymbales, et en faisant retentir les luttes et les harpes.
David was wearing a coat of linen.
David portait un manteau de byssus.
He had taken off his royal robes.
Il avait enlevé ses robes royales.
He was wearing white linen.
Et portait du tissu blanc.
See, the ark was the presence of God.
Vous voyez, l'arche était la présence de Dieu.
David laid aside his royal authority.
Et David a enlevé son autorité royale.
And according to 1 Samuel, or according to 2 Samuel 6,
et selon 2 Samuel 6,
it was an ephod of white linen.
C'était un éphod de lin blanc.
Which means it was a priestly robe.
Ce qui veut dire que c'était une robe de prêtrise, de prêtre. Dans la présence de Dieu, il enlevait son autorité royale et a mis une robe de prêtre.
I think there's a lesson there.
Je crois qu'il y a une leçon ici.
Elders do have authority in an assembly.
Les anciens ont une autorité dans les assemblées.
And workers might have an authority in an assembly.
Et les ouvriers peuvent avoir l'autorité dans une assemblée.
And deacons have some authority.
Et voyons, les diacres ont une certaine autorité aussi dans les assemblées.
But when we come to God's presence in the assembly meeting,
mais quand on vient dans la présence de Dieu dans une assemblée,
when we come to the Lord's Supper,
quand on vient au repas du Seigneur,
where the presence of God is,
où la présence de Dieu est,
where the ark, the Lord Jesus is the center,
où l'arche, où le Seigneur Jésus est le centre,
kingly robes are laid aside.
Les robes royales doivent être mises de côté.
And priestly robes are put on.
Et les robes de prêtre doivent être revêtues.
You say, what do you mean by that?
Et vous me demandez qu'est-ce que je veux dire par cela.
There's no room for one man to dominate the Lord's Supper.
Il n'y a pas de place pour qu'un homme domine au repas du Seigneur.
The elder doesn't become the big man.
L'ancien ne devient pas ce grand homme.
He lays aside the kingly robes.
Il met de côté les robes royales.
And he takes his place as a priest.
Et il prend sa place en tant que prêtre.
We're like all the other priests.
Comme tous les autres prêtres.
You can worship and praise God together.
On peut adorer et louer Dieu ensemble.
The center of attention will be the ark, that is the Lord Jesus.
Le centre d'attention sera l'arche, le Seigneur Jésus-Christ.
That is just a little extra thought that I want to throw.
C'est juste une petite pensée que je veux ajouter.
So we see how David has reacted to God's correction.
Alors on voit comment David a réagi face à la correction de Dieu.
He submitted his power to the Lord's word.
Il a soumis sa puissance à la parole de Dieu, à Dieu lui-même.
I ask you, why did David submit his power?
Pourquoi est-ce que David s'est soumis?
Because for many, many years,
parce que pour plusieurs années,
David had learned to submit when he was young.
David avait appris à se soumettre quand il était Et il a utilisé un homme insensé pour le faire. Le roi Saül avait brisé son esprit et il a appris à se soumettre. Parce qu'il était un homme qui avait appris à se soumettre, Dieu lui a laissé le leadership sur les gens, l'autorité. Ce n'était pas si difficile pour David de se soumettre parce qu'il avait été habitué à se soumettre. Avant qu'on prenne une pause, est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions?
Yesterday I was in my desk and I had thought about what you say last morning, and I write it down. I don't have a sheet; it's still on my desk. And I say, my verse was in the New Testament. God's verse said, "Submettez-vous." What does it say? Submettez-vous. Submit to one another. And I say, what's the application for everybody, for elder, deacon, and so on? What's the interaction of everybody in that verse? And that's where my question is, I want to ask you this morning.
Ma question était, hier, j'étais assis à mon bureau, puis j'ai toujours ce verset-là en tête. Soumettez-vous les uns les autres. Et c'était ça. C'est quoi l'application ou l'interaction de chaque membre de l'Assemblée, ça veut dire ancien, diacre, saint, ou saint, l'expression qu'il prend dans ses livres, alors des membres de l'Assemblée, alors c'est quoi l'interaction? Ça va jusqu'à où?
Notre frère fait une citation de 1 Pierre 5:5, où on n'est pas non seulement appelé à nous soumettre aux anciens, mais Pierre ajoute, soumettez-vous les uns aux autres. Alors, notre frère a demandé ce que cela voulait dire. Même si c'est vrai qu'il faut qu'on se soumette aux anciens, il y a plusieurs choses dans la vie d'une assemblée où le sujet n'est pas la parole de Dieu. Quand c'est la parole de Dieu, c'est le devoir d'un ancien de nous mener dans la parole. La Bible est claire. Mais il y a plusieurs sujets dans lesquels la parole de Dieu n'est pas le sujet. Peut-être que c'est la couleur la couleur dans laquelle nous devrions peinturer ces murs ici. Peut-être c'est la date à laquelle on devrait avoir un pique-nique pour l'école du dimanche. on et dire on a une, est-ce que vous avez un climat pour aller à l'extérieur ici? Peut-être c'est comment avoir le souper de fraternisation, fraternel, souper fraternel. Peut-être que c'est le temps des rencontres et des sujets semblables. Il devrait y avoir cette attitude que peu importe c'est quoi notre position personnelle, pour l'unité, on va se soumettre les uns aux autres. J'ai peut-être une préférence, mais c'est quoi qui marche pas si je me soumets à toi? Qu'est-ce qui m'empêche? Et la parole de Dieu enseigne Pierre? Is teaching Peter? Elle nous enseigne dans ce livre de Pierre. Il dit que ton anglais est mauvais, mais c'est moi. Je pense déjà quand il parle à ce qu'il veut dire, c'est difficile. Chaque croyant, incluant les anciens, devrait avoir l'attitude de soumission. Pas se soumettre à l'erreur, mais se soumettre les uns aux autres quand il n'y a pas de doctrine en question. Et en passant, dans Éphésiens au chapitre 5, si une femme est à se soumettre à son mari, ça dit aussi de se soumettre les uns aux autres. C'est correct en passant, les hommes, de vous soumettre à vos femmes sur certains points. Pas quand le leadership de Dieu, sa manière d'agir est en question. Mais dans plusieurs cas, la femme va avoir raison. Et si vous reconnaissez cela, ne soyez pas, n'ayez pas peur de vous soumettre. Et je crois que c'est ça qui Dieu veut dire par de telles déclarations. De Samuel au chapitre 7. On continue encore dans le sujet. De la manière dont David exerce son autorité. Ou comment il utilise son pouvoir. Et alors, David est roi ici. Et il a une grande vision de faire de grandes choses pour Dieu. Et Dieu n'agréera pas cette décision. Mais David a le pouvoir de le faire quand même. Il a l'autorité. Il a les hommes pour le faire. Et il a l'argent pour le faire. Et il aurait pu le faire s'il l'aurait voulu. Mais Dieu lui a dit non. Avez-vous déjà une vision pour Dieu de ce que vous pensiez qu'il voulait que vous fassiez? Moi, j'en ai déjà eu. Et Dieu n'a pas semblé être d'accord avec ça. Qu'est-ce qu'on fait quand Dieu ferme la porte? You hit your nose in it when he closes the door. C'est un grand nez. Comment est-ce qu'on accepte le nom de Dieu dans nos vies? Spécialement quand on a du pouvoir. On va voir comment un homme selon le cœur de Dieu l'a fait. Alors, 2 Samuel chapitre 7. les versets 1 à 3, s'il vous plaît.
Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui eut donné du repos, afin l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète, « Vois donc, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. » Nathan répondit au roi, « Va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. »
David voulait construire une maison pour l'arche de Dieu. Il voulait construire le premier temple, la maison de Dieu. C'est toute une vision de vouloir construire la maison de Dieu. Et il avait l'habilité pour le faire. Et le prophète dit, « Vas-y, fais-le. » Mais Dieu a parlé cette nuit. Les versets 4 à 6, s'il vous plaît.
La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel, est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'en fasse ma demeure? Mais je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte jusqu'à ce jour. J'ai voyagé sous une tente et dans un tabernacle.
Alors Dieu dit, je t'ai jamais demandé de me faire une maison. Et Dieu dit à David, tu ne construiras pas une maison. Mais ton fils va le faire. Alors on voit ça au verset 13.
Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume.
Alors David, tu ne me construiras pas une maison, mais quelqu'un de ta postérité va le faire, et c'est Salomon. Alors comment David réagit-il à ce nom? Et pourquoi est-ce que Dieu a dit non? Et pourquoi croyez-vous que Dieu a dit non? Il dit parce que David était un homme de sang. Oui, le livre des rois nous dit que David était un homme de sang. Il a dû tuer plusieurs gens. Et ça, c'était une des raisons. Mais Dieu voulait une maison. Alors, même si Dieu avait un nom pour David comme réponse, pour ses propres raisons, il avait aussi un oui pour David comme réponse. Quand Dieu ferme une porte, il en ouvre une autre. Et l'autre porte était beaucoup plus grande que ce que David aurait même pu imaginer. Au verset 12.
Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne.
David aurait une postérité. Et selon le verset 13, cette postérité durera pour toujours. Il promettait à David une dynastie qu'il deviendrait la famille royale et que ce serait ses fils qui siégeraient sur le trône en Israël. Et ce trône durerait à toujours. Et nous savons qui sont ses fils. David serait le père de Jésus-Christ lui-même, dans un terme humain, un sens humain. Alors Dieu avait des grands plans pour David, beaucoup plus grands que simplement construire un temple, pour établir la dynastie de Dieu, pour établir le trône de Dieu pour toujours, pour être dans la généalogie du Messie lui-même. Alors, frères et sœurs, Dieu peut fermer une porte, il peut dire non. Si vous avez le pouvoir, n'utilisez pas ce pouvoir pour ouvrir une porte que Dieu vient de fermer. Ça sera un vrai désastre. Mais permettez à Dieu d'ouvrir une autre porte. Et pour votre situation, ce sera une meilleure porte, comme ça le fut pour David. Alors, comment David réagit? Alors, on va au verset 25. Et on lit les versets 25 à 29.
Maintenant, l'Éternel Dieu fait subsister jusque dans l'éternité la parole que tu as prononcée sur ton serviteur et sur sa maison, et agis selon ta parole, que ton nom soit à jamais glorifié, et que l'on dise, l'Éternel des armées est le Dieu d'Israël, et que la maison de ton serviteur David soit affermie devant toi. Car toi-même, Éternel des armées, Dieu d'Israël, tu t'es révélé à ton serviteur en disant, « Je te fonderai une maison. » C'est pourquoi ton serviteur a pris courage pour t'adresser cette prière. Maintenant, Seigneur éternel, tu es Dieu, et tes paroles sont vérité, et tu as annoncé cette grâce à ton serviteur. Veille donc bénir la maison de ton serviteur, afin qu'elle subsiste à toujours devant toi. Car c'est toi, Seigneur éternel, qui en parlais. Et par ta bénédiction, la maison de ton serviteur sera bénie éternellement.
Et au verset 25, il mentionne la parole que Dieu a prononcée. Encore, il se soumet à la parole de Dieu. Il dit, Seigneur, fais ce que tu as dit. C'était une grande chose que David a réalisée. Il a réalisé qu'il n'était pas vraiment le roi des enfants de Dieu. Il était son serviteur. Et c'était qui le roi? Dieu lui-même. Et c'est ce que les leaders ont besoin de réaliser, de comprendre. On n'est pas vraiment l'autorité des enfants de Dieu. Il faut qu'on les serve de la manière de Dieu. Mais la tête de l'Église, c'est Christ. C'est une grande leçon dans le leadership. Que même si vous êtes en tête, vous n'êtes pas vraiment le meneur. Mais ça, c'est un homme selon le cœur de Dieu. Qui veut laisser le Seigneur être roi. Il va laisser le Seigneur faire les décisions. Contrairement au grand homme, le roi Saül. Alors David dit au verset 26, que ton nom soit exalté, je suppose, oui, à glorifier, c'est ça. Il ne s'est pas révolté contre le Seigneur. Il n'a pas dit, pourquoi est-ce que tu me fais ça? Pourquoi est-ce que tu me mets dans ces circonstances? L'amertume peut détruire votre ministère. Mais David n'était pas impliqué pour ce qui ça lui rapporterait à lui. Mais il était là-dedans vraiment pour démontrer quelle était la personne de son Dieu. C'est pour ça que sa réaction au nom de Dieu était correcte. Alors, comment est-ce que vous réagissez devant les portes fermées? Commentaires ou questions?
Mr. Amos, earlier you said something about, I think it was David, that couldn't build the house of God, because he was a man of blood.